Il est 19h, vous êtes bien sur campus, tout de suite c'est l'heure du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien dans le sous-marin. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour décrypter l'actualité. Au programme ce soir, nous allons vous diffuser une interview de Pascal Boursier qui a organisé le festival Fan Movie Star Wars qui se déroule ce soir au Gaumont à partir de 20h30. Et nous allons parler aussi de la marge atelier d'édition. Et pour ça, Simon est avec nous. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Ensuite, eh bien, vous aurez le droit à un agenda signé Thibaut, comme à peu près tous les jeudis. Il vous fait ce grand honneur et ce grand plaisir de vous donner ses conseils de sortie. Et également au programme, un reportage micro-trottoir signé de Séraphine, notre stagiaire de 3e. Mais tout de suite, on commence non pas par un reportage, mais par une revue de presse.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et on commence cette revue de presse avec un sujet que l'on a déjà traité cette semaine, Notre-Dame-des-Landes. Et aujourd'hui, dans le courrier, vous pouvez retrouver un article signé Vincent Boucaud qui traite de la venue de Stéphane Le Foll au Salon des techniques du végétal spécialisé. Une cinquantaine de manifestants opposés au projet d'aéroport étaient présents pour l'accueillir et donner de la voix. Le ministre de l'Agriculture n'a donc pas échappé à une question sur le sujet, hein, forcément. Assez mal à l'aise, il s'est pris pour un demi de mêlée et a botté en touche, je cite notre ministre, « Je sais que les Nantais ont aussi des avions qui leur passent au-dessus de la tête, qu'il y a des problèmes économiques. On est engagé dans une procédure d'une décision qui a été débattue et réajustée, notamment sur l'utilisation des sols. Je ne suis pas là pour convaincre ceux qui ne veulent pas de cet aéroport. Bref, merci de votre engagement, monsieur le ministre. » Notre-Dame-des-Landes, toujours dans un article de Jade Lingard, publié hier sur Mediapart, on apprend que la ministre de l'écologie Ségolène Royal invite les nouveaux élus à reprendre le dialogue, sans pour autant vouloir en prendre elle-même l'initiative. Ce à quoi notre nouveau président de région a répondu, je le cite, « C'est n'importe quoi, comme d'habitude, il y a eu une commission de dialogue et ça n'a rien donné. Si demain François Hollande renonçait à l'évacuation, la ZAD s'implanterait définitivement, c'est devenu un symbole, je demande l'évacuation. » Un article qui se conclut sur un dialogue de sourds quand le président Les Républicains de notre région répond à la question de la violence lors d'évacuation avec une allusion à la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens, je le cite, « Mais si le chantage à la violence gagne, on risque d'entrer dans un cycle d'ultra-violence. » Toutefois, il ne précise pas qui exerce ce chantage. Et on peut au moins reconnaître que Bruno Retailleau a vu juste, la ZAD est effectivement devenue un symbole puisque samedi dernier des manifestations de soutien avaient lieu à Bayonne, Brest, Dijon, Caen, Carcassonne, Foix, Lyon, Poitiers, Quimper, Rouen et Tarbes, rien que ça. International maintenant avec les primaires aux États-Unis. Dans les Inrocks de cette semaine, une fois passé un bon tiers de magazine dédié à la mort de Bowie, on tombe enfin sur un article intéressant, un article à propos de Marco Rubio. Vous savez, ce phénomène floridien, fils d'immigrés cubains qui fait figure de plan anti-Trump. Du côté des Républicains, on y apprend que le Quadra a su jouer la carte de l'identité hispanique avec fierté, et surtout qu'il a évité les scandales, parce que les casseroles qu'il traîne, c'est quand même pas mal, hein, comme le fait d'avoir menti sur la raison qui a poussé ses parents à fuir Cuba, à savoir la dictature de Batista qui a été mise en place par les Ricains, et non celle de Castro, comme il le clame à peu près partout, ou encore l'utilisation de sa carte bancaire du parti pour des dépenses personnelles. Un candidat qui est à l'opposé total de Bernie Sanders, le socialiste. Oui, oui, je vous rappelle qu'aux États-Unis, socialiste, c'est un gros mot. Donc Bernie Sanders qui a le droit à un article dans le Monde Diplo de ce mois-ci. On y apprend qu'il n'est finalement pas si radical que ça, à la différence d'un Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, par exemple. Son combat porte, lui, principalement sur la redistribution des richesses. Enfin, il a toujours été plus à gauche qu'Hillary Clinton, puisqu'en 1964, quand cette dernière soutenait le candidat républicain Barry Goldwater, eh ben Sanders, lui, militait pour les droits civiques. On termine par du sport puisque l'Euro de handball commence demain. Le Ouest France publiait une interview de Nicolas Karabatic. Bon, je vous le cache pas, cette interview n'a absolument rien d'exceptionnel, mis à part qu'elle nous remet en mémoire que le meilleur joueur du monde porte le maillot bleu depuis 13 ans. Et ouais, ça met un coup de vieux. En tout cas, allez les bleus. Sur campus, vous venez d'écouter Lilea Narrative avec le titre Septième Souffle. Et tout de suite, nous allons vous diffuser une interview de Pascal Boursier qui est passé hier dans nos studios pour discuter du fan movie Star Wars, un festival qu'il organise ce soir au Gaumont. Pascal Boursier est avec nous dans les studios. Salut Pascal.
Salut les garçons.
En plus d'être un des chroniqueurs de l'Afterwork, l'émission déjantée hebdomadaire, ça se passe le mercredi de 18 à 19h.
Avec un plaisir immense.
Exactement. Tu es dans le monde du théâtre, tantôt metteur en scène, tantôt comédien, les deux directeurs de la compagnie des Arthurs. Et tu as aussi organisé le festival Fan Movie Star Wars, donc ça se passera jeudi soir au Gaumont à partir de 20h. Oui. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que c'est que ce festival alors ?
Alors, c'est un festival surtout fait pour nous, les Angevins. Les fan-films existent depuis très longtemps, que ce soit surtout sur toutes les grandes sagas de films, que ce soit du Marvel, que ce soit Batman, j'en vois sur YouTube depuis un bout de temps. Je suis pas le fan, je suis pas le geek, je suis pas le fan absolu, même de Star Wars. J'aime Star Wars, mais j'aime plein d'autres univers, et j'aime Star Wars parce que justement il y a plein de thèmes abordés. Bref, je me suis dit que ça serait cool d'organiser des petites manifestations, ou des petites ou des grandes d'ailleurs, mais en tout cas des manifestations pour la sortie de Star Wars 7 du mois de décembre. Donc d'abord j'ai été voir Xavier Mornas, qui est le directeur du Gaumont Multiplex Angers, pour lui proposer une soirée déguisée. Tout le monde se pointe déguisé pour la sortie. C'était le vendredi 18 au départ, et puis ça a été le mercredi 16 décembre. En me disant, oh, je suis sûr que sur une machine de guerre comme Disney, il va pas avoir besoin de moi, le mec. Hein. Il a tout ce qu'il lui faut, il va sûrement avoir des trucs de prévu, des choses comme ça. Sincèrement, je pensais à ça. Je vais le voir. Tout de suite, il me laisse même pas finir. Il dit, je suis preneur. Soirée déguisée, ouais, si toi t'as du réseau, je suis preneur parce que nous, on n'a rien. D'ailleurs, je lui pose la question, je lui dis, mais Disney, il y a... Il dit non, Disney, par contre, ils font beaucoup de copies. C'est vrai que des copies du Star Wars, il y en a plein. C'est comme ça que facilement, ils se retrouvent maintenant le plus grand succès de tous les temps au niveau du nombre d'entrées. Parce qu'ils se sont dit, on met beaucoup de l'argent dans des copies. Donc, il n'y a pas des manifestations le jour même dans les cinémas. Donc, lui, ça l'arrangeait. Il me dit, bah oui, ok, une soirée déguisée. Je dis, bah c'est cool, bon, bah ok, d'accord. Je dis, bon, étant comédien, aimant évidemment le Cinoche, l'image et ma ville, organiser des choses pour nous, les Angevins. Est-ce que, éventuellement, si je te parle d'un petit festival, je dirais de fan-films, entre guillemets, ou en tout cas, ça donne la possibilité aux gens de tourner ce qu'ils veulent avec le portable, avec une caméra, avec ce qu'ils veulent, un petit film de 1 à 3 minutes comme ça, est-ce que ça te dirait super ? Ok, c'est parti, je suis ton homme. Ah bah c'est cool ça. Donc voilà, c'est parti sur cette discussion là et à partir de ce moment là évidemment on a un petit peu élaboré le projet, on a lancé les candidatures et du coup on a demandé aux gens de nous envoyer avant, c'était jusqu'au début janvier, de nous envoyer leurs films qui ont été sélectionnés et qui seront projetés jeudi soir lors d'une soirée spéciale. Il y a une quinzaine de films qui va être projetés.
Thibaut, il y avait une volonté d'ouvrir le concours à absolument tout le monde, ou c'était
surtout
la destination d'un public jeune particulièrement ou...
Non, il s'avère que c'est les jeunes qui ont beaucoup répondu. Alors peut-être que c'est notre communication qui a fait ça aussi. Je sais qu'il y a plusieurs associations à Angers ou en agglomération d'Angers de vidéastes amateurs. Qu'on n'a pas atteint, peut-être parce qu'eux, ils ont encore une image de Star Wars, peut-être justement geek. Jeunes pour un style de public et que ce sont des gens qui font plus des reportages sur des choses peut-être un peu plus sociales, un peu plus sérieuses, bref. Donc, bon, ceux-là, je pense qu'ils n'ont pas... je pense que le message, il n'est pas assez bien passé de notre part. Par contre, au niveau des écoles, au niveau des jeunes, au niveau des ados, on a eu plein de propositions et aussi au niveau d'adultes aussi. Mais ça va de l'école Cussono. Donc, je crois que ça a l'air des CP, entre CP et CM1, qui ont fait des petits films comme ça avec leur instit, avec des pliages, jusqu'à des films vraiment très pointus, avec des gens qui veulent aller beaucoup plus loin dans l'image, dans la réalisation. Donc, c'est génial. C'était ça que je voulais, surtout, que ce soit pour tout le monde, que tout le monde se sente concerné en se disant « Allez, je me fais plaisir, j'ose, le but du jeu c'est de se retrouver, de se rencontrer, de partager, d'échanger autour d'un truc que tout le monde connaît. »
Ça a eu du succès. Alors, vous avez reçu combien de films à peu près hein, à la
Une quinzaine. En fait, on savait pas du tout au départ. C'est vrai qu'ensuite, on prend les réseaux sociaux, on prend cet outil-là. Alors, avec les réseaux sociaux, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Soit il n'y a rien, soit on est débordé. Donc là, on a une quinzaine de films de Jean d'Angers. Donc, on est très contents parce qu'en plus, c'est qu'une soirée. Donc, ça nous permettra de les diffuser et d'ensuite que chacun puisse présenter. Que toutes les équipes puissent un peu présenter leur film, pourquoi ils l'ont fait, ce qu'ils ont voulu éventuellement dire, décrire, puisque j'aime bien cette idée aussi de prendre Star Wars comme thème fédérateur. Et Dieu sait qu'il y en a dans l'univers de cette fiction qu'est Star Wars. Que ça soit social, que ça soit amical, que ça soit familial, que ça soit politique, que ça soit... Il y a plein de choses à aborder. Donc cette ouverture-là, elle me plaisait. Et c'est ce qui a aussi branché un petit peu tout le monde à faire des films.
Thibaut ? Et les gens justement ont abordé ces thèmes en brassant un peu large, il y a eu des choses très différentes ou
Alors on a une série chez les ados, on a une série Lego, animation de Lego, c'est marrant. Et ça, on le savait, ça voilà, on découvre, ça c'est vrai, donc du coup, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de comédiens, donc il y en a qui se sont bien éclatés à faire ça avec des Legos, et c'est super chouette. Il y a aussi de l'animation, alors donc du pliage, l'école Cussono a fait du pliage, donc c'est vachement bien, parce qu'ils se sont vraiment cassés la nénette à essayer à faire des pliages, des vaisseaux, des choses comme ça. Et puis après, il y a évidemment des combats. Donc on sent aussi les ados un peu plus grands qui prennent leur sabre laser, qui vont en forêt et qui se font des combats. Et puis il y a un dernier thème aussi qui est très abordé, c'est l'impact que peut avoir le cinéma ou en tout cas une fiction ou un univers sur quelqu'un d'aujourd'hui, quoi. Donc il y a deux ou trois films qui sont faits sur des gens qui sont complètement... qui deviennent quasiment schizophrènes avec Star Wars. Ils voient des sabres laser quand ils achètent du pain, enfin voilà.
Ces films, vous allez vous les trier, vous diffusez les 15, enfin vous allez passer les 15 jeudi soir.
Oui, tout à fait. On s'était dit que, nos limites étaient, je vais dire bêtement, mais la vulgarité par exemple. Dark Vador qui soulève sa robe et qui va au GOG, truc comme ça, voilà. Et Dieu sait qu'il y en a hein, sur Internet, il y en a des trucs comme ça. Et je voulais pas non plus qu'on soit dans le foutage de gueule. Je voulais pas qu'on soit dans le... Comme ça peut se faire, parce que j'aime bien Star Wars, donc j'ai pas envie non plus que ça soit un prétexte à se foutre de la gueule de n'importe qui. Je tenais à ça. Donc en fait, on en a pas eu, tant mieux pour nous. Donc du coup, évidemment, même s'il y a des fois des différences, je dirais, techniques, mais heureusement, c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est beau, c'est justement cette ouverture-là qui va être chouette à partager, parce que chacun le fait avec ses moyens. Voilà, on est amateur là-dessus.
Il y a quand même un jury, vous allez donner des lots, des cadeaux aux meilleurs ou...
Voilà, donc il va y avoir quand même un jury, c'est-à-dire que le soir même, les gens qui sont là vont pouvoir voter. Je veux pas, et j'y tiens, à ce qu'il n'y ait pas trop de compétition, je voulais surtout pas que les gens, que ça soit vraiment convivial, mais qu'effectivement, ensuite, on puisse élaborer un petit palmarès avec, il y a des lots, il y a des choses à gagner, mais pour moi, le plus beau cadeau, c'est que Xavier m'a promis que les meilleurs, alors c'est techniquement, par contre, il peut pas se permettre de techniquement certains en passer dans une grande salle, mais par contre, les meilleurs techniquement, ils pourront être diffusés avant les séances de Star Wars. Donc c'est juste hallucinant, parce que déjà, moi, c'est quand j'étais gamin qu'on avait les petits films avant, les petits courts-métrages. Maintenant, il n'y a que de la pub et des teasers, enfin des avant
et des bandes annonces.
Ouais, voilà, des bandes annonces, pardon. Du coup, ça va être génial pour certains de se retrouver comme ça, juste avant la séance de Star Wars, film qu'ils adorent en plus. C'est cool, quoi.
Ouais, assez exceptionnel, Thibaut.
Le choix du Gaumont par rapport à d'autres cinémas comme Cinéville ou les 400 coups, donc c'est parce que tu connaissais personnellement le directeur du Gaumont.
Du tout. C'est parce que je pensais que c'était eux qui feraient le plus gros truc. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'y étais, j'ai pas réalisé aussi qu'il y avait le cinéma... À Décathlon, le nouveau cinéma qui se...
Cinéville,
voilà. Mais moi, je suis très attaché à Gaumont aussi, donc j'y étais d'une façon complètement inconsciente. Et c'est vrai que je me disais, Star Wars, je ne vais pas aller proposer ça aux 400 coups. Et en plus, Xavier est très content que je lui ai proposé, parce qu'il dit, c'est vraiment une politique que j'essaye de mettre en place aussi. Une nouvelle politique de ce cinéma, d'ouverture, sur des choses plus à hauteur de la ville, à dimension plus locale. Voilà, il a envie de faire ça, parce que c'est vrai que je n'y croyais pas, je pensais pas que Gaumont le ferait, vraiment.
C'est vrai que c'est pas l'image que ça renvoie au premier abord.
Eh ben, il faut changer cette image. Comme l'image des 400 coups peut changer aussi, puisque les 400 coups revendiquent aussi le fait d'avoir des blockbusters, notamment comme Star Wars, qui passent chez eux. Et du coup, maintenant, je pense qu'il va y avoir une évolution aussi au niveau des 400 coups et au niveau des gros cubes comme ça, comme la Gaumont ou celui des Ponce.
Donc coup de neuf, coup de jeune, on va dire, au Gaumont.
Bah, c'est une nouvelle ère qui commence. Xavier vient d'arriver, ça fait un an qu'il est sur Angers. Il est jeune, il est dynamique, il a envie de faire plein de choses, il a plein de projets. Et donc, je trouve ça très chouette ce qui est en train de se passer là.
Alors, tu nous as dit tout à l'heure, tu n'es pas un gros fan, en tout cas pas un geek. C'était quoi ta relation avec Star Wars, surtout sur les premiers pendant ta jeunesse?
C'est un choc comme beaucoup. En fait, c'est maintenant, ça devient, on enfonce des portes ouvertes quand on dit ça, mais... Mais je relis à longueur de magazines ou d'interviews des gens qui le disent, qui en parlent et qui disent la même chose que moi, c'est que j'ai 10 ans quand il sort en 77, le film. J'en ai vu, bien sûr, pas mal le film. Pas autant que ça non plus, parce qu'on n'allait pas si souvent que ça au Cinoche. Mais en 77, j'ai 10 ans, j'y vais. La musique, le générique, la bande jaune qui passe, le premier vaisseau énorme qui passe au-dessus. C'est une révolution, ça. Il a révolutionné, ce mec-là, George Lucas, le cinéma. Il faut imaginer que tous les films, tous les effets spéciaux, quasiment tous les films d'effets spéciaux aujourd'hui, passent par ILM, sa société d'effets spéciaux, qu'il a créé. À chaque Star Wars, il créait des caméras différentes. Donc, il y a visuellement une révolution qui se crée. Donc, quand tu as 10 ans, que tu es tout neuf et tout prêt à t'éduquer à tout ce qui est images, histoire, évidemment, c'est bouleversant. Et j'ai adoré d'abord ces images-là, d'abord un western galactique, quoi. Je voyais des films de cow-boys, j'adorais les films de cow-boys. Je vois un film de cow-boys qui se passe avec des vaisseaux spatiaux comme jamais on les avait vus. J'adore les comédiens, j'adore l'humour, j'adore les personnages. Donner vie à des robots, jamais personne ne l'avait fait. Un singe, donner vie à un singe comme ça, à part la planète des singes, personne ne l'avait fait. Enfin, c'est un regroupement de plein de choses. Tout simplement, parce que Lucas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a puisé aussi. Ces grands films-là, ce génie de ces mecs-là, c'est d'aller pomper partout, dans la mythologie, jusque dans les westerns. Dark Vador, son casque, c'est les SS. Il prend partout. C'est ça le génie de ces mecs-là, c'est qu'ils se documentent à fond. Ils sont tellement ouverts, réceptifs à tout ce qui se passe autour d'eux, qu'avec ça, ils font une marmelade et ça donne Star Wars.
Lucas a révolutionné le cinéma. Toi, révolutionner le Gaumont d'Angers.
Le festival. Alors, et je tiens à préciser, déjà... maintenant qu'il y a cette soirée-là, mais il va y avoir une vie après, dans le sens où pour moi le but du jeu aussi, c'est un peu une rampe d'essai, pour que ça se pérennise, pour qu'on puisse ensuite créer entre guillemets une communauté, j'aime pas le mot communauté, ça fait communautaire, de mecs qui ne pensent qu'à ça, qui ne font que ça, non, de gens qui ont envie d'échanger et de vivre des choses autour de ça, et ensuite, dès le lendemain, le Courrier de l'Ouest, je me dépêche, prend la suite et va diffuser les films. Et on va peut-être faire un blog, mais le but du jeu, j'aimerais bien que les gens, si par exemple aujourd'hui des gens écoutent, si vous écoutez la radio là, et que vous écoutez et que vous entendez ça, dites-vous bien que si vous avez envie de le faire, vous pouvez tout à fait encore tourner des films, nous les envoyer, ils seront rajoutés ensuite sur le site, on va avoir un site ou au moins pour l'instant une page Facebook, et je voudrais que ça vive au-delà de cette soirée-là, qui est un peu la soirée de lancement.
Eh ben, merci beaucoup. Merci, Pascal. On te donne rendez-vous jeudi à partir de 20h.
N'hésitez pas à appeler Gaumont, voir s'il y a de la place. C'est gratos, c'est open, on se fait la fête et tout ça. Venez déguiser aussi, ramener un sabre laser, on se fout sur la gueule et hop.
Et puis, affaire à suivre.
Alors. Ouais, merci infiniment, les garçons.
Merci à toi.
Missing your people.
Junior Thomas and the Volcanoes, More Than Memories. Évidemment, c'est dans le sous-marin sur campus. Et tout de suite, on va passer à l'interview de Simon. Simon, tu représentes l'atelier La Marge. Avant de te poser la première question, nous avons envoyé Séraphine demander aux Angevins leurs avis sur la lecture.
Oui, effectivement, je suis allée dans le centre-ville d'Angers demander aux passants leur avis sur la lecture. Et voilà leur réponse.
Qu'est-ce que cela m'apporte ? Détente, évasion, ennui aussi parfois, surprise.
Des émotions.
Ça m'apporte un moment de tranquillité, de calme. Et ça me permet de m'évader, d'imaginer, de rêver aussi.
La lecture m'apporte beaucoup de connaissances sur le milieu dans lequel on vit. Ça permet de mémoriser. Et de mémoriser les informations.
Ça me permet de m'évader. Ça, voilà, ce que j'aime bien dans la lecture, c'est qu'on peut s'imaginer nous-mêmes ce qui se passe, le physique des personnes, les paysages et tout. Donc voilà, c'est vraiment plus de l'imagination, c'est un moment de détente et c'est du bonheur, quoi.
De la détente, pas mal, et puis un petit peu de voyage spirituel, essentiellement.
De la détente, et puis de la culture. On apprend plein de choses, quoi. C'est toujours intéressant. On est au courant d'actualité. Je fais des échanges avec d'autres amis, donc c'est un moment d'échange en même temps, quoi.
C'est avant tout une bonne chose pour l'imagination. C'est aussi un bon moyen d'apprendre. Après, voilà, faut aimer lire, mais je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose qui nous plaît.
Plus on lit, plus on connaît des mots de la langue française. Donc après, c'est beaucoup plus facile d'écrire. Et aussi, mis à part ça, voilà, c'est super important parce que ça permet de se créer un univers. Parce que quand on lit, c'est pas comme quand on regarde un film. Quand on regarde un film, on a toutes les informations. On nous dit déjà tout ce qu'on peut faire et ce qu'on doit penser, alors que là on a à penser par nous-mêmes et enfin c'est super intéressant, c'est plein d'histoires à découvrir, donc voilà, c'est cool.
Le rêve, en fait, vraiment le rêve, l'évasion, le fait de pouvoir essayer d'incarner soi-même quelqu'un, enfin voilà, ce genre de choses, le rêve vraiment, quoi. Le rêve, ça résume bien les choses.
Vous, Simon, qui faites partie de l'association La Marge, la lecture vous apporte quoi?
Ah, je suis plutôt d'accord avec tout ce que j'ai entendu, l'évasion... C'est quitter la vie, découvrir autre chose, quoi. C'est vraiment ça pour moi, c'est s'échapper de notre vie.
C'est ouais, bien. L'évasion, c'est ce qui ressortait le plus dans ce micro-trottoir, c'est pareil pour vous.
Ah ouais, clairement.
Votre association a pour vocation la production artisanale d'œuvres littéraires à base de matériaux de récupération, c'est à peu près bien résumé ?
Oui, c'est ça, oui.
Bon, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet ?
Waouh. Alors la genèse au départ, c'est une amie à moi, donc Flora, qui était partie en Argentine pour rencontrer les Cartonera, donc les personnes qui font la même chose là-bas. Elle avait vu un documentaire sur Arte, sur Eloisa Cartonera, la toute première. Donc elle est allée là-bas, elle a vu comment ça se passait, elle a travaillé avec eux pendant 2 mois, et puis elle a ramené dans ses bagages plein d'idées. Elle m'en a parlé, et puis on a démarré, quoi.
Et c'est parti comme ça. Thibaut ?
Alors vous organisez les ateliers, alors c'est à quelle fréquence et qu'est-ce qu'on y fait exactement ?
Alors, nos ateliers sont dans nos locaux, donc rue de Frémur à Angers. Et on est ouvert le jeudi soir de 5h à 8h, donc en ce moment. Et également le samedi après-midi de 14h à 18h. Donc c'est toutes les semaines, voilà, 2 fois par semaine. Qu'est-ce qu'on y fait ? On fabrique les livres qui sont en vente à la marge. C'est-à-dire qu'on va peindre les couvertures, donc chacune des couvertures des livres est unique. Et on va également relier les livres, donc un peu de couture, etc.
Séraphine.
Vous touchez beaucoup de personnes ?
Au niveau du public qu'on rencontre, c'est un petit peu varié. Donc il y a beaucoup de curieux qui viennent pour découvrir ce que c'est, qui ont vu l'info ou qui viennent pour sortir. Puis on a aussi des personnes un peu plus régulières qui s'intéressent vraiment à l'édition. Et puis c'est surtout pour passer un bon moment, une après-midi, en faisant quelque chose de constructif aussi.
Alors justement, le public est varié, on va dire, au niveau social aussi, ou vous avez un peu tout le monde qui vient, ou finalement c'est les personnes du même milieu, un peu culture alternative, on va dire ça comme ça.
Je pense pas qu'on soit trop dans le milieu culture alternative, non, ça va.
Non,
c'est pas trop ciblé là-dessus, je pense que c'est vraiment varié, on n'en discute pas tant que ça finalement entre nous, c'est plutôt des gens qui aiment lire en fait surtout, et... Ça vient de tous les côtés, on peut être dans le classique de temps en temps.
Thibaut ?
Au niveau de votre catalogue, alors on trouve un peu de tout, des romans, des recueils de nouvelles, du conte, des livres jeunesse. Quand on lit un peu les résumés, ça a l'air très éclectique. Comment vous choisissez les textes que vous publiez ?
Eh bien, comme toutes les maisons d'édition, petites ou grosses, on a un petit comité de lecture qui lit et puis qui choisit ensuite les textes qui nous plaisent, qui sont publiés ou pas. Sinon, on fonctionne au coup de cœur et au projet, hein, globalement.
Alors, pendant la pause musicale, je me suis permis de lire l'introduction de l'ours de Denis Bécchio, il me
Diego,
semble.
Diego.
Diego. Vous les trouvez comment, ces auteurs argentins? Ça vient aussi des cartoneros, cartoneras, ouais. Je ne sais pas comment on dit.
Donc, il y a certains textes qui ont été édités là-bas et qui ont été traduits par une cartonera française, la toute première qui existait en France, la Guêpe, et qui nous ont offert ces textes-là pour démarrer, puisque la Guêpe n'existe plus sur Paris. Donc ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier, et du coup c'est une réédition. Et maintenant on a quelques textes mexicains qui vont arriver, que Flora est en train de traduire et qu'elle a ramené dans ses bagages au cours de voyage.
Alors vous nous avez dit tout à l'heure que c'est Flora qui avait noué le contact. Comment vous le maintenez, vous le développez? Est-ce qu'il y a des échanges? Vous retournez là-bas? Enfin, où elle retourne là-bas? Est-ce qu'eux viennent ici?
On n'a pas forcément d'échanges réguliers avec eux. Après, on a reçu le mois dernier une universitaire du Wisconsin, une américaine, qui gère une plateforme qui centralise tout ce qui se passe au niveau du mouvement cartonera dans le monde entier. Donc on a fait une petite discussion avec elle, elle nous a ramené des livres un petit peu du monde entier, ça nous a permis d'avoir un échange, de savoir ce qui se faisait un petit peu partout.
Et alors, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur? Il y en a dans combien de pays?
C'est un mouvement qui est impossible à quantifier.
Ouais.
Ce qu'elle nous a expliqué, c'est quand il y en a une qui ferme, de toute façon, il y en a deux qui germent à côté.
D'accord, donc ça bouillonne de partout.
Ça bouillonne, puis c'est éphémère.
Et avec les autres cartoneras qu'on peut trouver en France, vous êtes en contact aussi? Vous échangez, vous vous développez ou...
J'ai parlé de la Guêpe, avec qui on avait des échanges au début. Il y a également une cartonera sur Clermont-Ferrand, Cartoceros, avec qui on a des discussions. On a eu un coup de fil cette semaine, donc c'est pour ça que je peux en parler un petit peu. Mais les projets ne sont pas encore définis. Ils viennent de se relancer, en fait, eux. Ils sont partis sur les ruines d'une autre cartonera, justement, qui s'appelait Cephisa. On peut trouver des documents là-dessus.
Et en France, c'est pareil qu'au niveau international, ça bouillonne aussi. Il y en a pareil, sur le même principe, dès qu'il y en a une qui ferme, il y en a une ou deux autres qui rouvrent, ou on est encore un peu en retard par rapport au reste du monde?
Si j'ai réussi à en citer deux, c'est parce que j'en connaissais pas plus.
D'accord, pour l'instant, c'est encore assez limité. Thibaut.
On peut vous retrouver aussi en marge, justement, de certains festivals ou de choses comme le Bastringue qu'on avait reçu dans nos studios. Quand vous touchez des publics comme ça qui sont là, pas forcément pour vous, comme ça peut être le cas à Rue de Frémur, vous avez des bons retours, après les gens reviennent?
C'est vraiment difficile quand les gens viennent, on leur demande pas comment ils nous ont connus, donc des fois c'est la publication sur le Céno, des fois ils sont passés, ils avaient aperçu le logo de l'association par exemple au Bastringue sans se prendre le temps d'acheter un livre, et ils se sont dit je reviendrai plus tard, donc... Ça, on n'a pas de retour vraiment concret.
Ce qui vous fait marcher, c'est plus le bouche à oreille, finalement, que les opérations de communication, quand on voit un fly ou un truc par-ci par-là?
Oui, je pense que le bouche à oreille, les réseaux sociaux, le partage un petit peu d'informations plus qu'autre chose.
Thibaut, vous organisez aussi des soirées-jeux, c'est tous les derniers dimanches du mois. C'est une occasion ou une volonté de se retrouver un peu en dehors des ateliers?
Oui, l'idée, c'est qu'on a un local et on l'occupe le jeudi soir et le samedi. Ça fait pas mal de jours libres. Donc on voulait les remplir, donc on a proposé nos adhérents, s'ils avaient envie de faire quelque chose. Donc on en a un qui aime bien les jeux de société, donc il fait une après-midi jeu, tous les derniers dimanches du mois.
Et vous les créez aussi, ces décors de jeux? Vous inventez les jeux carrément, ou pour l'instant, petit à petit?
Pour l'instant, non, mais je crois qu'il le fait un petit peu, oui, c'est plus ou moins en cours.
Vous avez d'autres projets comme ça en tête, ou la volonté en tout cas d'en avoir, même si ça dépend sans doute des bénévoles?
Au niveau des projets, ça dépend vraiment des forces en présence. Donc là, on est concentré sur les prochains bouquins qui vont arriver. On vient de sortir la collection Jeunesse, où on a eu deux sorties le mois dernier. Donc ça nous occupe déjà pas mal.
C'est déjà bien, Thibaut?
Ça va pour moi, merci Pierre-Louis.
Ça va pour toi, bon bah très bien, si ça va pour toi, tout le monde est content. Non, je voulais savoir, pour faire fonctionner ça, c'est compliqué, ça prend vraiment beaucoup de temps, ça demande énormément d'investissement personnel.
Ouais, je pense que ça prend pas mal de temps, ça c'est clair, y a tout le boulot pour rechercher des auteurs, il y a le boulot de mise en page, il y a un vrai travail d'édition qui est fait. De temps en temps, il y a des textes où il faut tout reprendre, rediscuter avec l'auteur, il y a des échanges, après il y a la fabrication qui se fait de façon collective, donc ça va, mais il y a un peu de travail en amont quand même, d'impression des documents, etc. La com, on en parlait un petit peu, mais ça prend un temps monstre.
Ouais, c'est sûr. Mais ça doit être très intéressant d'ailleurs de discuter avec les auteurs, de voir comment on peut éventuellement réadapter leurs textes, etc.
C'est ce qui est génial, c'est pour ça qu'on fait ça.
Et vous en avez régulièrement, enfin vous avez besoin régulièrement de réadapter les textes?
Non, en général, on n'est pas. Non, on est satisfait, ça nous plaît, et après, c'est des petits détails qu'on va repeaufiner.
Quand vous avez besoin de réadapter, la plupart du temps, c'est des auteurs étrangers ou ça arrive aussi avec des auteurs français ?
Non, ça sera avec les auteurs français, avec les auteurs étrangers, ça sera avec la traductrice qu'on communiquera et qu'on verra.
Ouais, vous voyez, dans ce cas-là, directement. Ouais. Ok. Et les traducteurs, justement, vous les connaissez comment ? Enfin, comment se fait le contact ? Vous fouillez comme ça ? Vous voyez en note de bas de page, traduction par un tel, et on fouille sur Internet ou...
Non, non, pour les traductions, comme on a eu le partenariat avec la GEP au début, c'est eux qui avaient un réseau de traducteurs, c'était quelques Argentins qui vivaient à Paris, et maintenant, nous, on a Flora qui a voyagé pas mal, qui est bilingue, donc qui nous fait les traductions.
Et donc la majorité des textes que vous avez à traduire sont de l'espagnol vers le français ?
Ouais, ouais, ouais. Pour le moment, c'est même plus que la majorité, c'est tous.
Est-ce que vous imaginez faire l'inverse, vous, envoyer des textes français traduits en espagnol, éventuellement par Flora, et les envoyer aux cartoneras argentins ?
Oui, ça fait partie des projets, ouais.
Ouais, c'est...
Internationaliser le truc, c'est un des rêves, quoi.
Pour ça, il faut s'appuyer justement sur le réseau français ou vous comptez vous appuyer directement sur l'international ?
Je dirais que pour ça, il faut qu'on sorte la tête de l'eau et qu'on prenne le temps d'y réfléchir.
En ce moment, c'est vraiment...
Ouais, on est... Bah, en fait, comme c'est une association, on a tous un boulot à côté, donc on fait ça le soir après le boulot. Donc,
Vous êtes combien de membres, on va dire, pas très actifs, même quasiment hyper actifs, à tenir, entre guillemets, l'association ?
C'est un peu varié, mais ça va de 2 à une vingtaine de personnes.
Ouais, une vingtaine de personnes, on y arrive. 2, ça reste plus compliqué, c'est ça.
Donc ça dépendra des semaines.
Et donc ça, c'est une grosse moyenne. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où vous avez plus de monde ? Je ne sais pas, par exemple en hiver, les gens ont peut-être plus envie d'aller à un atelier. En été, ils ont peut-être plus envie de lire les bouquins dans les parcs, je ne sais pas.
J'ai pas vraiment ressenti, non, il y a des creux juste pendant les week-ends prolongés au mois de mai. Sinon, j'ai rien ressenti.
Les vacances de Noël aussi, sans doute.
Un petit peu, oui.
Thibaut, c'est toujours bon pour toi ?
Le noyau dur des membres de la marche, vous étiez tous amis ou vous étiez juste deux ou trois au début et d'autres se sont rattachés au groupe après ?
Donc, les fondateurs en étaient 5 et effectivement, on se connaissait depuis la fac ou depuis... Ouais, ça fait vieux de dire ça. On se connaissait depuis 4 ou 5 ans et voilà, on a eu l'idée ensemble, on est partis ensemble, c'est ce qui nous a poussé aussi à le faire. Maintenant, quand je me pointe le samedi ou le jeudi, tous les gens qui sont autour de moi, il n'y en a aucun qui était là au début.
D'accord, vous êtes le survivor.
C'est pas moi, c'est un autre, hein, mais voilà.
Et donc le cercle d'amis de la fac, c'est en relation avec vos études ? Vous avez fait des études qui ont un rapport de près ou de loin avec la littérature et l'édition ou pas du tout ?
Moi, je suis prof de maths.
Oui, ça peut avoir un rapport.
Donc voilà, sinon les autres, c'est à part le fait qu'on soit tous étudiants, donc on est tous poussés un petit peu nos études, il n'y a rien. On avait qui faisait de l'histoire, d'autres du journalisme, d'autres du français, donc ça c'est...
C'est peut-être aussi ça, la force, et qu'il y a un mélange des compétences.
Je pense qu'il y a un peu de ça, oui.
Ouais, ça aide forcément. Thibaut ? Non, c'est toujours bon pour toi. Ouais, très bien. On avait envie de vous proposer aujourd'hui une expérience un peu particulière, quelque chose qui va vous sortir de l'ordinaire, puisque Yves-Henri Guillonnet va vous faire partager son billet d'humeur musicale. Alors, cette expérience, c'est un peu la continuité de son travail autour des portraits musicaux avec le musicomaton. Et ça va de soi, à campus, on ne triche pas, tout est en direct, sans filet. En plus, c'est de l'improvisation totale. Yves-Henri, si tu es prêt au niveau technique, c'est à toi. C'était Yves-Henri Guillonnet. Merci beaucoup, hein, Yves-Henri, de nous avoir fait partager tes émotions sur le moment. Alors, je rappelle que, Yves-Henri, tu feras ta quatrième session de portraits musicaux dans le quartier de la Doutre. La quatrième dans le quartier de la Doutre, hein, on précise, hein, sinon il y en a eu beaucoup, beaucoup plus. Ça se passera du 15 au 20 février. Je vous invite à rester branchés pour obtenir plus d'infos. Simon, qu'est-ce que ça vous a évoqué, ce moment d'émotion, d'ailleurs, proposé par Yves-Henri?
Moi, ça m'a reposé. J'ai trouvé ça assez apaisant, c'était agréable.
Et à ton avis, à votre avis, qu'est-ce que Yves-Henri nous a dit à travers ça?
Alors là, j'ai pas d'avis.
Non, il n'y a rien qui est passé comme ça.
Non, j'ai pas assez d'imagination.
Thibaut, toi, t'as de l'imagination, je le sais.
De l'imagination, je sais pas, mais ça me renvoie en tout cas à beaucoup de musiciens que j'affectionne. Ça me fait penser, ces nappes de guitare, à Godspeed You, Black Emperor, à Mogwai, et j'adore ce genre d'électronica planante. Donc merci Yves-Henri pour ce moment.
Séraphine, toi, qu'est-ce que ça t'évoque?
Bah déjà, j'aime beaucoup, hein. Mais après, franchement, je sais pas, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça touchant comme musique. Ça fait passer beaucoup. Enfin, moi, ça me fait passer beaucoup d'émotions. La tristesse, en même temps, je sais pas, ça permet aussi de penser à autre chose. Donc voilà, franchement, super.
Et ben après tout ce qu'on a raconté, pour être tout à fait sincère, Yves-Henri, moi, j'ai revu l'émission défilée Notre-Dame-des-Landes avec ce suspense, etc. Une petite teinte de Star Wars avec le western, l'idée de western dont parlait Pascal Boursier. Je sais pas, Yves-Henri, tu peux peut-être prendre le micro, nous parler un peu de ce que tu nous as proposé. Est-ce que ça fonctionne en région? On sait que Marc, notre réalisateur, est très au point là-dessus. Ça devrait marcher sans problème.
Je technicien.
Normalement, oui, ça fonctionne, on ça t'entend. Marche. Vas-y. Voilà,
parce que moi, je ne m'entends pas, mais ce n'est pas grave. Mais écoute, tu sais, Pierre-Louis, c'est aussi simple que de la musique intuitive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication et que les seules explications que vous donnez, c'est les bonnes.
Donc, voilà. C'est une musique que tu nous as fournie avec tes tripes. C'est ça.
Y a un peu de ça, après, oui, on peut dire ça.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle expérience musicale.
Bah, écoutez, avec grand plaisir, mes amis, de vous retrouver tous les jeudis, si possible, pour vivre des moments poétiques.
Allez, c'est signé, tu reviens tous les jeudis, Yves-Henri, merci beaucoup. Thibaut, ça va être l'heure de l'agenda. Qu'est-ce que t'en penses? Tu nous proposes les bons plans de sortie?
Oui, tout à fait, Pierre-Louis, on va commencer par le programme. Ah, tu voulais lancer virgule?
Ouais, allez, une virgule, allez, c'est pour le fun,
ça mange ça.
20h, le sous-marin, sur Radio Campus Angers.
Et un tapis, allez, c'est parti, allons-y.
Allez, un tapis direct. Alors, pour ce vendredi soir, nous les avions reçus hier soir, la Lima Squat, le Gecko rue Rabelais, pour vous proposer un nouveau concept, le catch d'improvisation. Deux équipes de deux joueurs s'affrontent sous l'autorité d'un maître de cérémonie chargé d'annoncer les thèmes, mais aussi de les modifier en cours de route. Ça démarre à 20h, donc dans un petit quart d'heure, 10 minutes, et il vous en coûtera 4€. Du côté de l'espace culturel de l'université à Saint-Serge, la caverne sensorielle vous présente la deuxième mouture de la soirée Perception, qui allie DJ, performance et scénographie. Ça vient de commencer, mais ça dure jusqu'à 1h du matin. Alors n'hésitez pas, l'expérience en vaut sûrement la peine, l'entrée est-elle à 5€. Toujours ce soir, soirée spéciale aux 400 coups à 20h15 avec la projection de Bad Boy Bubby, un film italiano-australien sorti en 93 qui a fait le buzz en octobre dernier à l'occasion de son retour en salle en étant notamment adoubé par Tarantino. On suit les aventures de Bubby qui a passé 35 ans enfermé dans sa chambre sous l'emprise psychologique de sa mère. Il aura l'occasion de s'échapper et de découvrir un monde extérieur qui lui est inconnu lorsque son père réapparaît. À mi-chemin entre Canine et Bernie, le film a reçu un très bon accueil du public, l'occasion donc de le découvrir et de pousser les thématiques plus loin puisque la projection sera suivie d'une rencontre avec une psychiatre psychanalyste. Pour demain soir, si une douce odeur de beurre vient
bien chatouiller vos narines, cela viendra sûrement du Shabada, puisque l'association Black Up y organise sa première invasion avec le haut du panier de la musique sous influence jamaïcaine. On y retrouvera en effet Legal Shot, Sir Wilson ainsi que Green Cross.
Mais quel cliché. Tout de suite tu parles de musique jamaïcaine, forcément t'amènes l'herbe sur le tapis.
Ah, oh je suis désolé, oui, c'est vrai qu'on les connaît, c'est comme les teufeurs qui dansent jusqu'à 9h du mat sur de l'Arte, qui sont là pour la culture et pas pour les prods.
Voilà, c'est ça.
Ça sera quand même The Place to Be pour les amateurs du genre. Plus d'infos sur le site du Chab ou la page Facebook de l'asso Black Up. Du côté du bazar, vous pourrez plonger dans les abysses de la house minimale, puisque AR, DJ nantais officiant à la fameuse Station Rose, y sera en B2B, ou dos à dos pour les anglophobes, avec Peepulp. Si on les retrouve la semaine prochaine à Astropolis, on peut se douter que le niveau sera un peu plus élevé que celui de la techno que votre petit cousin bricole sur son iPad dans sa chambre.
Samedi ça soir, se trouve, le petit cousin est très bon, hein. Ça t'en sais rien,
Oui,
t'as quelques doutes. Bon, vas-y, poursuis, c'est pas grave.
Samedi soir, le T-Rock Coco vous propose une soirée éclectique puisqu'elle mêlera les tourangeaux de Steak, formation oscillant entre free jazz et mélodie lyrique, avec le collectif de musique électronique Jurassic, bien connu des Nuits Angevines. Et gros week-end pour le Chab, puisqu'ils enchaînent avec les quarts de finale de The End of the Week, une des compétitions rap de référence. La soirée, organisée par l'association Jeunesse Angevine, promet d'être épique puisque plus de 50 challengers s'affronteront afin d'accéder aux demi-finales. Vous pourrez ensuite assister à un live de R.E.S. Turner, double champion du monde en titre, 10€, tarif unique et c'est tout pour moi.
C'est déjà pas mal. Simon, quelque chose vous tente dans cet agenda
Oui, je pense que je serai samedi au T-Rock Coco.
Ouais, samedi. Non, vous faites pas partie, vous, des gens qui aiment la musique jamaïcaine.
Non, c'est pas trop. Je veux faire Louis, mais c'est super cliché.
Faut pas le dire à la radio, surtout maintenant qu'il a annoncé que ça sentait la beuh partout.
Non, au contraire.
Et Thibaut, si on veut mettre un visage sur ta douce voix, où est-ce qu'on risque de te croiser personnellement ?
Eh bien, si j'arrive à atteindre l'espace culturel de l'université, je serai certainement à la soirée perception ce soir.
Oui, organisée par la Caverne Sensorielle que nous avons reçue ici même en début de semaine. Eh bien, c'est l'heure de conclure cette émission. Merci beaucoup, Simon, d'avoir participé. C'était très sympa d'être venu. Merci beaucoup, Séraphine. Tu as été très efficace pendant ton stage.
Pas de soucis.
Et Thibaut, comme d'habitude, exceptionnel. Oh. On remercie évidemment Marc qui a été à la réalisation. Étienne qui n'était pas à la programmation, mais on lui fait quand même un gros coucou. C'était la première fois de l'année qu'il nous abandonnait pour la programmation.
Terrassé par la maladie.
Et évidemment, on remercie chaleureusement Yvan-Ri Guillonnet que vous retrouverez désormais tous les jeudis dans le sous-marin. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine de 19h à 20h. Et d'ici là, bon week-end.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.